Radio 1, premier sur l'info, édition spéciale.
Édition spéciale Chikungunya avec Cédric Valax et ses invités en plateau.
Mes invités, le docteur Henri-Pierre Mallet qui est le responsable du bureau de veille sanitaire et Stéphane Long qui est le responsable du secteur lutte antivectorielle au centre d'hygiène et de salubrité publique. Et justement de lutte antivectorielle, on en parlait juste avant la pause, on y retourne. La question, où est cette question? Est-ce que le Chikungunya est plus dangereux que la Zika? C'est pas tout à fait la bonne question que j'ai posée, mais docteur Henri-Pierre Mallet, je vous sors de vos dossiers. Chikungunya est plus dangereux que Zika? C'était Rémi de Papeete qui nous pose la question.
Oui, alors, plus dangereux, plus douloureux. Plus douloureux, ça c'est certain. Ça donne de la fièvre élevée, ça donne des douleurs articulaires. Le Zika, on voyait, c'était, il n'y avait pas de grosse fièvre, c'était surtout une fatigue. Donc, plus douloureux que le Zika, oui. Plus dangereux, oui et non, c'est-à-dire que c'est pas dangereux, je l'ai dit, il n'y a pas de mortalité associée au chikungunya. Pour autant, il peut y avoir, donc je vous ai dit, des personnes quand même plus sensibles, hein, les nouveau-nés, les femmes enceintes et les personnes les plus âgées. Mais je reste méfiant parce que je pense au Guillain-Barré qu'on a eu pendant le Zika. On ne peut pas non plus prédire, hein, pour prédire de quoi que ce soit, je veux pas jouer à ça. Donc voilà, je pense que ça se passera bien, hein, qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter.
Faut pas trop s'inquiéter.
Faut être responsable, faut faire face. C'est un virus, il y a plein de virus qui circulent dans le monde, on va sans doute pas mal d'entre nous vont choper. Voilà, et puis ça va bien se passer, mais qu'on fasse en sorte qu'on ne soit pas tous malade en même temps, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, on prend nos responsabilités pour ralentir au maximum la diffusion.
D'où le traitement antivectoriel. Belle pirouette. Merci. Ce traitement, donc, avec ce temps de pluie, on a eu des auditeurs qui nous ont déjà appelés en nous disant, mais pourquoi il pleut chez moi?
Alors, effectivement, il faut savoir que quand la pluie est forte, les agents qui procèdent à ça ne sont pas censés traiter, tout simplement parce que, en fait, quand on traite, on pulvérise dans l'air un aérosol qui va rester très peu de temps, quelques minutes, peut-être une heure ou deux maximum, et c'est les moustiques qui vont percuter ces gouttelettes qui sont dans l'air, c'est comme ça qu'ils vont mourir. En fait, le traitement, donc, il est efficace que très peu de temps. Faut pas non plus, dans le même ordre d'idée, que les gens attendent un effet durable de nos traitements.
Oui, parce que vous avez des gens qui sont demandeurs. Alors, il y en a qui sont complètement contre ce traitement, parce que c'est des produits chimiques et ils aiment pas ça, et on peut comprendre leurs craintes. Et d'autres qui sont demandeurs, et on peut aussi comprendre leurs demandes.
Ce que je voudrais dire à ces gens qui sont demandeurs, je les comprends, mais il faut pas qu'ils attendent de nos traitements des miracles. Ça n'a qu'un effet ponctuel. Comme j'expliquais tout à l'heure, ça vise à tuer des moustiques porteurs de virus, ponctuellement, mais il est très possible qu'ils aient de nouveau des moustiques le lendemain, et s'il y a des gens porteurs dans le quartier, que rapidement, il y a des moustiques qui soient capables de transmettre. Donc, il faut pas se sentir en sécurité parce que le centre d'hygiène est passé avec des machines pour traiter. Ça ne dispense pas de supprimer ses gîtes à moustiques et de se protéger.
Mais c'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure, est-ce qu'il n'est pas trop tard avec cette période des pluies, justement? Parce que si on traite votre produit, on sait qu'il résiste pas à l'eau, et que donc le traitement, il va être efficace, 2 heures, 3 heures,
Ce n'est pas lié à l'eau, hein. Même s'il fait sec, le traitement n'est efficace que 2 heures, 3 heures. La méthode de traitement qui fait qu'on utilise des insecticides très peu dosés, justement pour respecter la santé des gens et pour éviter des dégâts collatéraux au niveau des animaux, etc. On fait exprès d'utiliser des insecticides à une faible dose. Mais ça veut dire aussi que la compensation de ça, c'est pas efficace longtemps.
Et donc, l'importance de se traiter soi-même et de traiter son environnement.
Voilà, de s'occuper de ses gîtes à moustiques et de se protéger.
Question qui me turlupine, qu'est-ce qui devient cet insecticide?
Une grande partie de l'insecticide est dégradée par les UV du soleil, en fait, quand il est encore dans l'air. Et puis, il y a effectivement une toute petite partie qui va se retrouver au sol et qui va être éliminée par le ruissellement, mais ça se dégrade très vite dans l'environnement.
C'est pas un produit qui aura d'autres effets, parce qu'on sait que pendant les campagnes que vous faisiez pour la période du Zika, on expliquait bien protéger vos bassins à poissons, parce que c'est dangereux pour les poissons, ça peut vite, ça les tue, comme les insectes. Est-ce que ces produits, quand ils se retrouvent dans une rivière ou dans les sols, peuvent tuer les poissons quand ils arrivent au lagon, par exemple?
La quantité de produits qui arrivent au lagon est bien inférieure à celle qu'on projette, comme je disais, parce qu'il y a déjà beaucoup de produits qui a été dégradé par les UV, en fait, les ultraviolets qui sont produits par le soleil, simplement, ou par la lumière. Hein.
Donc pas de danger pour l'environnement.
Je pense que s'il y avait eu des mortalités de poissons dans le lagon, on aurait entendu parler, rassurez-vous.
Ça oui. Vous l'aurez entendu au moins sur notre répondeur. Docteur Henri-Pierre Mallet.
Oui.
Comment on fait alors? On laisse faire et on attend? On vous avait interrogé il y a quelques mois, à l'époque du Zika justement, et du premier cas de Chikungunya. Je vous avais demandé à l'époque, est-ce qu'il faut s'attendre à l'avoir? Et vous aviez été très... je vais pas dire fataliste, justement, très réaliste en disant oui, ça pourrait arriver.
Ouais.
Ça arrivera même.
Ouais. Non, on voyait effectivement venir, hein, on voit sur la zone Caraïbes-Antilles, il y a une extension qui est phénoménale, hein, l'Amérique centrale est touchée, les pays du nord de l'Amérique du Sud, donc on ne lutte pas contre ces histoires naturelles, enfin, on ne gagne pas au final. Par contre, on a cette capacité de ralentir, de contrôler. C'est la notion de contrôle. On n'élimine pas, on ne gagne pas, mais on fait arme égale. On se défend quand même. On contrôle, on évite que ça aille trop vite. On évite que les gens soient malades, ou en tout cas qu'ils soient bien soignés, pas qu'ils soient trop malades, qu'ils soient bien pris en charge.
Et qu'ils soient pas malades en même temps, surtout.
Et qu'ils soient pas malades en même temps pour pouvoir bien prendre en charge. Donc on fait face, on n'a pas peur et on utilise tous les moyens qu'on a pour gérer cette épidémie. On n'évite pas l'épidémie, on la gère. Donc on essaye de la contrôler.
Voilà. À quoi on peut s'attendre? En termes de chiffres, de population touchée. Parce qu'on est quand même, ouais. On est séparé sur une grande zone, supérieure à la surface de l'Europe, mais nos îles sont pas très grandes. On le voit à Pataki, où une bonne partie de la population est touchée. À partir du moment où une île est touchée, ça peut très vite se développer et toucher tous les habitants. Est-ce que vous avez fait des projections de chiffres, justement, sur la population qui pourrait être concernée?
C'est un peu difficile. On n'a déjà pas fini de compter pour le Zika. On est un petit peu bousculé par les épidémies. C'est là où on n'a pas trop de chance, j'aurais tendance à dire. C'est que tout s'est un petit peu mélangé. La dingue
avec deux sérotypes.
Toujours, deux sérotypes. Le Zika là-dessus. Et puis maintenant, voilà. Et puis en toile de fond, je vous parle pas du spectre d'Ebola qui plane sur le monde, qui nous concerne pas trop, mais auquel on est obligé aussi de penser. Quoi qu'il en soit, on a toutes ces affaires à faire face. La question, c'était quoi? Sur l'extension, les projections sur le pays. On a une population qui n'est pas immunisée contre le chikungunya, on le sait. Il y a eu des enquêtes ponctuelles faites sur des donneurs de sang avec l'Institut Louis Mallardé qui ont montré qu'il n'y avait pas d'anticorps du chikungunya dans la population polynésienne. Donc le virus n'a pas circulé. La population n'est pas immunisée. Donc on peut imaginer un profil assez similaire de celui du Zika.
Donc ça va toucher
le monde. Qu'on pourrait avoir plus de la moitié de la population qui est touchée, en sachant que certains seront asymptomatiques, donc ne sauront pas qu'ils ont été infectés, ça se passera bien, mais au total, il y aura certainement plus de la moitié de la population qui sera touchée au final. Après, il y aura peut-être des îles qui vont être épargnées, ça, effectivement, c'est ce qu'on souhaite, à condition donc que les gens s'annoncent tout de suite quand ils vont sur une île pour éviter de répandre les choses. Pour le Zika, il y avait quand même eu la très grande majorité des îles, y compris les atolls qui avaient été touchés.
Stéphane Long, vous avez, vous, des perspectives sur la suite de l'épidémie? Vous allez baisser les bras au bout d'un moment? Enfin, si ça...
Non, il s'agit pas de baisser les bras, il s'agit d'agir au moment où c'est nécessaire, pas agir non plus pour rien.
Hein, là, c'est actuellement, mais est-ce que vous envisagez de faire des plus grosses campagnes de pulvérisation au cas où?
Ça va dépendre un peu de l'évolution de la situation, s'il y a des grandes zones touchées simultanément, ou si ça reste concentré sur certains quartiers, s'il y a une progression graduelle en quelque sorte. Je veux dire, si tous les quartiers sont pas touchés simultanément, on va pas traiter pour traiter. C'est pour, en essayant d'être le plus efficace possible, on n'a pas des gros moyens en plus. Donc effectivement, nous on fait pas ça par plaisir non plus, hein. Faut pas croire que...
Qui pulvérise d'ailleurs? Ce sont vos services, mais aussi les communes?
Non, on a de l'aide par contre d'autres services publics, notamment du service du développement rural et de la direction de l'équipement qui nous prête, si je peux dire, du personnel, parce qu'effectivement on est très peu nombreux. Par contre, les communes ont une action importante. C'est les communes en fait qui agissent au niveau de la lutte contre les gîtes à moustiques.
C'était le cas à Rouet ce matin, je crois, hein,
voilà,
avec des associations qui, comme pour le Zika, ils sont parcourent les quartiers pour réexpliquer ça aux gens.
Mais et tout c'est ça, très important ça pour nous.
Mais ce matériel-là, c'est sur Tahiti, dans les îles.
Il y a aussi des communes qui ont commencé des actions. Je pense à Wahine, par exemple, déjà la semaine dernière.
Non, pour les pulvérisations.
Pour les pulvérisations, on a aussi du matériel basé dans les îles. On a un certain nombre d'appareillages, bon, plus ou moins importants, bien sûr, selon les îles, parce qu'on peut pas, oui. On peut pas mettre des grosses machines dans toutes les îles, mais on a déjà pourvu tous les archipels de matériel en réserve. On a des agents de nos antennes du centre d'hygiène et aussi d'autres agents de santé qui peuvent intervenir. Et aussi, dans certaines îles, des agents du service du développement rural ou des communes. Ça dépend des îles, en fait. Hein.
Et ce moustique, là, il est présent sur toute la Polynésie française, sur toutes les îles, il se plaît sur toutes les îles ou il y en a où il est moins à l'aise?
Globalement, on peut considérer qu'il se plaît sur toutes les îles. Bon, il est vrai que l'archipel des Australes, a priori, est un peu moins gêné parce que la température est un peu réduite, mais malheureusement, on entre dans la saison chaude, donc malheureusement, on peut considérer que toutes les îles sont vraiment à risque en ce moment. Ouais.
Le mot de la fin, Henri-Pierre Mallet, c'est à vous que je vais le donner.
C'est un petit peu difficile, le mot de la fin, non, parce qu'on n'est pas tout à fait à la fin, malheureusement.
On n'est qu'au début, malheureusement.
Je voudrais simplement rappeler, voilà, faut pas de... Je voudrais pas qu'il y ait d'affolement ou de mauvaises questions ou de mauvaises idées qui se répandent. Ça, je crois que c'est vraiment important. C'est le pire, hein. C'est l'ignorance et les mauvaises idées qui peuvent faire beaucoup plus de mal que la réalité de l'épidémie. Donc, moi, j'encourage.
D'où le but de cette émission, justement, faire partir ces peurs irrationnelles. Le chikungunya ne vient donc pas de Fukushima. Et ce n'est pas les médecins qui l'ont inventé pour se faire plus de sous. Voilà. Donc on pourrait conclure en disant protégez-vous pour protéger les autres.
Pour protéger les autres. Tout à fait. Faut sortir de son petit coin, de son petit monde. Les gîtes à moustiques, ils sont aussi chez nous, ils sont pas que chez le voisin. Et puis quand on est malade, si malheureusement on est malade, on peut penser à son entourage pour qu'il ne soit pas malade à son tour.
Voilà, et on vous rappellera que nous vivons sur des îles et qu'il est absolument impossible de fermer l'entrée à la Polynésie ni la sortie d'ailleurs, parce qu'il faudrait nous vivre sur une bulle de verre, ce qui est absolument impossible. Et puis en plus, ce serait très dommage. Merci beaucoup Stéphane Lonck et Henri-Pierre Mallet d'avoir été répondre à nos questions. Et je pense que ce n'est pas fini, que nous nous retrouverons d'ici quelques temps. 13h30, c'est la fin de cette édition spéciale sur le chikungunya. Vous en retrouverez les grands moments sur notre site internet au www.radio1.pf. Très belle journée à tous.